Donc, je vais passer la parole à Julien Vincent, qui est maître de conférence à l'Université de Franche-Comté, spécialiste de l'histoire des savoirs et de la Grande-Bretagne victorienne, et qui va nous parler de connaître le monde britannique, l'apport de l'histoire des sciences et des savoirs.
Donc, je vais parler de la question de la connaissance du monde britannique entre 1815 et 1931, en partant d'une citation de William Whewell, W-H-E-W-E-L, de 1853. Il n'y a pas plusieurs mondes différents. Il n'y a qu'un monde unique, entouré de masses inertes et de mondes non advenus. Alors, lorsqu'il écrit ces lignes, William Whewell est le master du Trinity College à Cambridge, qui est le collège le plus riche, le plus important et le plus prestigieux de Cambridge. Il se trouve à ce moment-là, au milieu du XIXe siècle, engagé dans une discussion sur la pluralité des mondes, qui est une vieille discussion scientifique et théologique qui naît au XVIIe siècle. Et il se positionne fortement en faveur de la non-pluralité des mondes. Et en faisant ça, il se voit comme le défenseur de l'ordre établi. Puisque postuler l'unité du monde, ça signifie entre autres choses pour lui qu'on ne peut pas en changer. Que le temps ou les briseurs de machines qui, en East Anglia, brisaient les batteuses mécaniques et envoyaient des lettres de menace au master de Trinity College, ce temps-là, il est révolu. Parce que Trinity College possède d'énormes propriétés partout en Angleterre et aussi en East Anglia, et donc les paysans n'étaient pas contents au moment de la mécanisation de l'agriculture. Donc en affirmant que la science britannique, et plus particulièrement celle de Cambridge, et plus spécifiquement celle de Trinity College, que cette science offre les seules lunettes possibles pour déchiffrer le monde, pour le comprendre, Whewell signifie que le monde britannique est au centre du monde tout court. Alors, pour faire tenir ensemble ce monde britannique dans ce long 19e siècle, il a fallu bâtir une puissance qui n'était pas seulement économique, militaire, politique, mais qui a été aussi également scientifique et culturelle. On pourrait dire que c'est au 19e siècle que se trouve réalisé le rêve qu'avait formulé Francis Bacon au début du 17e siècle, pour qui le savoir s'identifiait au pouvoir. Puisque les savoirs, premier point, ils impliquent des visions du monde, mais deuxième point, ils servent aussi à trier et à classer les êtres, toutes sortes d'êtres, les territoires, les espèces animales et végétales, les ressources minérales, et aussi les êtres humains, à classer ces êtres à des fins pratiques. Hein, par exemple, il faut faire la carte géologique des territoires pour pouvoir exploiter le charbon et permettre l'industrialisation de la Grande-Bretagne. Mais troisième point, la définition de ce qui est un savoir et de ce qui n'en est pas un engage aussi non seulement des représentations du monde, mais aussi des représentations de soi-même et de l'autre. La construction des savoirs fait partie d'une négociation constante où s'établissent des rapports de force sociaux, identitaires, nationaux, coloniaux, entre les différents ensembles du monde britannique et qui traversent tout l'espace du monde britannique et toutes les classes, tous les groupes sociaux. Alors donc, pour évidemment, c'est un vaste sujet, pour essayer de voir comment au XIXe siècle on s'arrangeait pour connaître le monde britannique, je vais aborder d'abord la question des lieux institutionnels où ces savoirs sur le monde britannique pouvaient être représentés et transmis. Puis ensuite, je parlerai des acteurs qui étaient engagés dans cette construction des savoirs en montrant que ces acteurs n'étaient pas uniquement les grands savants. Et puis dans un troisième point, mais uniquement s'il me reste le temps, parce que ce papier n'est pas très bien cadré, il est beaucoup trop long, j'ai dû faire des coupes là. Si j'ai le temps, donc je traiterai de la question de leurs usages. Et peut-être pour resserrer la question, je parlerai plus spécifiquement du débat sur l'orientalisme qui a déjà été mentionné, donc qui a été ouvert par Édouard Saïd en 1978, et donc qui est très important dans l'historiographie des savoirs. Alors d'abord, la question des institutions, des lieux de production et de transmission des savoirs. Dans une société éminemment hiérarchique, une société de classe, comme la société britannique, la construction de la connaissance est aussi une affaire de légitimation des savoirs, légitimation institutionnelle. C'est les institutions qui légitiment les savoirs. Et au XIXe siècle, enfin dans ce long XIXe siècle qui déborde sur le XXe, deux systèmes coexistent. Un premier, qui est hérité du XVIIe siècle, repose sur une alliance entre les institutions savantes et l'Église anglicane. C'est le savoir des élites. Et puis le deuxième, qui coexiste mais qui s'impose, qui devient de plus en plus important après 1870, il trouve davantage d'appui chez les minorités religieuses et il repose sur une distinction entre les savoirs professionnels et les savoirs amateurs, repose sur l'idée que les savoirs sont une affaire de compétence et pas seulement de proximité de l'Église anglicane et de la connaissance de Dieu. Alors, je commence sur le premier point, les institutions anglicanes de légitimation des savoirs. C'est elles qui ont permis la grandeur scientifique de la Grande-Bretagne depuis Newton, depuis la création de la Royal Society en 1660. Il y a donc tout un réseau d'institutions, donc il y a la Royal Society, mais il y a aussi et surtout les universités d'Oxford et de Cambridge, fondées au XIIIe siècle, qui participent de ces savoirs établis, hein, on pourrait dire, en utilisant le terme établi en référence à l'establishment, l'Église établie. Jusqu'en 1871, avec le University Test Act, qui permet l'élection aux universités d'Oxford et Cambridge de savants qui ne sont pas forcément des anglicans. Donc l'Église anglicane a un monopole sur ces deux lieux centraux de la consécration des savoirs. Donc l'Église anglicane a un monopole. Et deuxième point, les savoirs qui sont enseignés sont extrêmement restreints. À Oxford et à Cambridge, pendant les deux premiers tiers du 19e siècle, c'est principalement pour les undergraduates, c'est principalement les classics, les langues et l'histoire ancienne, et les mathématiques à Cambridge qu'on enseigne. Et puis c'est tout. Pourquoi ? Parce qu'on considère qu'il est plus important que les étudiants issus de milieux souvent aristocratiques ou très aisés consacrent l'essentiel de leur temps à des activités, notamment sportives, qui leur permettent de forger leur caractère, de devenir des futurs dirigeants et de tremper leur moralité et leur caractère, d'être des gens qui savent prendre des décisions et occuper des fonctions de responsabilité, plutôt que d'être des têtes bien pleines. Pour les élites, donc, la connaissance du monde britannique se limite à l'acquisition d'une disposition morale, éminemment masculine, plutôt que de connaissances empiriques. Alors, on pourrait dire que c'est un système qui ne va pas très bien marcher. En réalité, il marche très très bien, puisque c'est de ces universités-là que sortent les plus grands savants du XIXe siècle britannique et aussi du monde, des gens comme Darwin ou les grands physiciens Kelvin et Maxwell, sont des produits de ce système universitaire, même si là, dans ces trois cas-là, ils ont d'abord étudié à Édimbourg. Il n'y a pas de contradiction entre l'excellence, on dirait aujourd'hui, scientifique, et puis ce lien avec l'Église anglicane. Alors, cette alliance entre l'Église, la science et les élites sociales, elle se traduit par l'importance de la notion de théologie naturelle, la théologie naturelle qui domine la science britannique au moins jusqu'aux années 60, avec la publication de l'origine des espèces de Darwin, mais en réalité, son influence, on peut la suivre jusqu'au début du XXe siècle. La théologie naturelle, qu'est-ce que c'est ? Ça repose sur l'idée qu'il existe deux voies principales d'accès à la connaissance de Dieu. D'abord, l'étude des textes sacrés, mais aussi, deuxièmement, l'étude de la nature. En comprenant les lois de la nature, on comprend les lois de la création et donc on accède à la connaissance de Dieu. Il n'y a pas de contradiction entre la foi et la raison. Donc on peut y aller dans la recherche scientifique, on peut aller très loin sans avoir peur de rentrer en contradiction avec l'Église anglicane. Alors, l'histoire des sciences et des techniques, l'histoire culturelle des sciences et des techniques, a montré l'importance de cet état d'esprit, de cette culture, de la théologie naturelle, pour expliquer les inventions les plus centrales dans la construction de la puissance économique et militaire de la Grande-Bretagne. Je prendrai le cas de la thermodynamique, qui est centrale pour comprendre et faire fonctionner les machines à vapeur, par exemple. Cette branche de la physique ne raisonne pas en termes de force, comme à l'époque de Newton, mais elle raisonne en termes de travail. Elle étudie comment l'énergie se transforme en chaleur et vice-versa, au terme d'un travail. Alors cette notion de travail, elle est centrale à la fois dans la religion, dans la pensée physique, et dans la pensée morale. Et si on regarde les principaux fondateurs de la thermodynamique anglaise, comme Maxwell et le futur Kelvin, sont des gens qui viennent de la théologie morale, qui viennent d'une morale calviniste, dans laquelle on pense que le travail a une valeur morale et qu'il faut l'économiser. Et selon les historiens de la thermodynamique anglaise, c'est en retraduisant ces valeurs morales du travail en langage mathématique que Maxwell et Kelvin en viennent à formuler les lois de la thermodynamique du milieu du XIXe siècle. Donc ce concept de travail est un concept commun de la physique et de la théologie naturelle. C'est aussi un concept central de l'économie politique, puisque c'est au moment où l'économie politique prend une grande importance culturelle, à partir des années 1830, que ce concept de travail s'affirme aussi en physique. Donc voilà, une affirmation conjointe dans différents champs de la vie culturelle, qui montre un peu l'importance de cette théologie naturelle comme culture des élites, que des gens qui ont étudié à Cambridge, hein, là, ces physiciens. J'ai dit qu'il y avait un deuxième système institutionnel de légitimation et de transmission des savoirs qui ne se définit pas par son rapport avec l'Église anglicane, mais plutôt par sa référence à un idéal professionnel, de compétence. Alors, ce deuxième idéal est porté principalement par les non-anglicans, qui jusqu'au milieu du XIXe siècle, aux années 1850, n'ont pas le droit d'étudier à Oxford et à Cambridge, mais qui peuvent aller en Écosse, par exemple. En Écosse, on n'est pas obligé de souscrire, puisque l'Écosse n'est pas anglicane, on n'est pas obligé de souscrire aux 39 articles de l'Église anglicane pour aller étudier en Écosse. Donc les dissidents anglais vont étudier en Écosse. Mais ils pensent qu'ils ont besoin de créer leurs propres institutions, et à partir des années 1820, une alliance, un groupe hétérogène qui regroupe plusieurs groupes des dissidents religieux, c'est-à-dire des protestants qui ne sont pas des anglicans, mais aussi des athées utilitaristes, se regroupe pour créer University College London en 1826, qui obtient une charte royale 10 ans plus tard, et qui est un concept d'université très différent de celui d'Oxford et de Cambridge, et aussi des universités écossaises, puisque l'université de Londres est simplement une institution chapeau qui regroupe plusieurs collèges et qui donne simplement des diplômes et qui se définit par le contenu de ses savoirs et sa compétence et non pas par sa capacité à produire des gentlemen moraux avec un caractère bien trempé. Ce deuxième système rival devient le principal système institutionnel de légitimation des savoirs après 1870. Je voudrais ajouter un point ici, c'est que ça met du temps avant que cet idéal professionnel s'impose dans les institutions savantes britanniques, mais les institutions impériales au XIXe siècle ont joué le rôle de laboratoire important pour cet idéal d'une éducation professionnelle plutôt que libérale à la Oxford et Cambridge. C'est le cas, par exemple, de l'East India College, qui est fondé à Haileybury, dans le Hertfordshire, au nord de Londres, et qui est une école pour former les futurs employés de la Compagnie des Indes anglaise, la East India Company, et qui est fondée en 1806. Alors, dans ce collège, on a une philosophie de l'éducation, de la transmission des savoirs, qui est très différente de celle qui domine à Oxford et Cambridge. Donc c'est un laboratoire. Pourquoi ? Parce qu'on se dit que puisque les étudiants de ce collège seront amenés à passer de nombreuses années en Inde, on a pensé l'enseignement de façon à pouvoir les préparer concrètement à leurs futures occupations. Donc on y enseigne les langues orientales, le sanskrit, le bengali, l'ourdou, etc., le droit, l'économie politique, l'histoire, les mathématiques, la philosophie naturelle, la littérature, pas seulement les langues anciennes et les mathématiques. Alors, c'est ici que Malthus, le grand économiste de Cambridge, enseigne l'économie politique du début jusqu'en 1834. C'est d'ailleurs dans le cadre de ses conférences à l'East India College que Malthus formule sa théorie de la rente. Et ce n'est pas du tout mineur parce que les futurs employés de l'East India Company sont des gens qui vont être employés souvent au sein de l'administration fiscale. Ils vont devoir collecter des impôts douaniers, des contributions directes, mais aussi prélever les impôts sur la terre, qui ont été créés de toutes pièces par les Britanniques en Inde au début du XIXe siècle. Donc en fait, la théorie de la rente de Malthus, ce n'est pas du tout un savoir abstrait, c'est un savoir qu'on a enseigné à des futurs employés administrateurs de la Compagnie des Indes. Finalement, on a en Angleterre des institutions savantes sur lesquelles il n'y a pas de consensus, mais il y a plutôt plusieurs modèles qui sont en rivalité et en concurrence. Cette concurrence n'a pas été un frein pour la diffusion du modèle des modèles éducatifs britanniques, au contraire, puisqu'au XIXe siècle, on voit que ces institutions savantes britanniques se diffusent très très bien au sein de l'Empire. Et là, on se retrouve dans une situation que John Mackenzie a décrite plus généralement à propos de la question de l'identité. Mackenzie dit que dans l'Empire, dans les colonies britanniques, les identités nationales sont moins fortes que l'identité britannique. En Grande-Bretagne, on est plutôt anglais ou écossais ou gallois que britannique. Dans les colonies, c'est pas comme ça. On est plutôt britannique. Et puis ensuite, on est canadien et australien. Et puis éventuellement, un petit peu anglais ou écossais. Dans la diffusion des institutions savantes et universitaires, on retrouve un petit peu le même système. C'est-à-dire qu'on a plusieurs modèles rivaux. On a un modèle d'Oxford et Cambridge. On a un modèle de Londres. Et puis un modèle écossais. Dans les colonies britanniques, on a fait un panachage entre ces différents modèles. On a créé des universités hybrides qui étaient typiquement coloniales et typiquement britanniques, sans être exclusivement anglicane ou utilitariste londonienne ou écossaise, et qui mélangeait un petit peu tous ces modèles. C'était très important dans les colonies de peuplement, donc Canada, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, de se référer à la métropole et de combiner ces différents modèles nationaux d'université. Mais cette diffusion des institutions universitaires ne se limite pas aux colonies de peuplement. En Inde aussi, on a des fondations universitaires. La première est le Hindu College de Calcutta en 1817, qui est financé par l'East India Company, des fonds privés et des droits d'inscription des étudiants, donc c'est un modèle anglais, dans le but de faire profiter l'Inde de la science occidentale. Et puis, au milieu du siècle, à partir de 1857, des universités sont fondées à Calcutta, Bombay et Madras sur le modèle de l'Université de Londres. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs collèges de différentes dénominations, groupes et types de financement qui vont se fédérer derrière ces universités. Donc le modèle d'université et d'institutions savantes britanniques se diffuse très bien à l'intérieur de l'Empire et dans les différents types de colonies. Dans l'Empire informel, en revanche, il est moins influent que les modèles éducatifs allemands et français. En Amérique latine, par exemple, les modèles espagnols, allemands et français sont plus influents que le modèle britannique. Ce n'est pas comme la situation actuelle où le modèle britannique, universitaire et savant, est beaucoup plus conquérant. Donc on voit que les institutions savantes britanniques se sont très bien diffusées dans l'espace. Maintenant, je voudrais prendre un autre point de vue et regarder de façon plus verticale qu'horizontale comment la question des savoirs s'inscrit dans l'ensemble de la société britannique. Les sociétés du monde britannique, pas seulement la société britannique, mais aussi les sociétés coloniales. Donc, je regarde maintenant la question des acteurs. Partant d'une citation de William Adam, qui est un missionnaire écossais d'Inde, qui rédige un rapport officiel sur l'état de l'éducation au Bengale en 1839, qui est un document très intéressant. Et dedans, il dit « Le mouvement naturel du savoir est du haut vers le bas et non du bas vers le haut. » Alors, les institutions éducatives et savantes ne connaissent pas seulement une expansion géographique, mais aussi sociale, qui reflète la structure sociale profondément hiérarchisée, le modèle hiérarchisé de société de l'Angleterre. Mais ça ne signifie pas, pour autant, qu'il faille concevoir l'histoire des savoirs et des sciences selon ce modèle qu'ont les contemporains, d'une diffusion des savoirs du haut vers le bas. Au contraire, les travaux les plus influents d'histoire des sciences et des savoirs au cours des dernières décennies ont tenté de remettre au cœur de leurs propos des acteurs qui avaient été jusqu'ici négligés, de faire une histoire des savoirs et des sciences plutôt par en bas que par en haut. Donc ils ont suivi la pente inverse de celle des contemporains. Bon, partons quand même par en haut, par une remarque simplement que je voudrais faire sur le profil social des élites savantes. Il y a une figure, alors là il y a Sylvain Venner qui est là, donc je marche sur des œufs, mais il y a une figure qui est très importante dans ce monde des savoirs du monde britannique, c'est celle de l'explorateur. Et l'explorateur britannique au XIXe siècle, cette figure-là, reflète bien l'idéal du savant gentleman qui date du XVIIe siècle. Cet idéal qui présuppose que la vérité scientifique est au fond fondée sur la confiance qu'on peut attribuer, qu'on peut accorder à un gentleman. Alors, un exemple qui montre à quel point cette figure de l'explorateur reflète les valeurs du gentleman du XIXe siècle, tout simplement celui de Darwin. Darwin, qui est un savant éminemment impérial, puisqu'il fait un tour du monde à bord du Beagle entre 1831 et 1836, qui lui servira de base pour le travail qui mènera lentement à la publication de l'Origine des espèces en 1859. Mais un aspect moins connu de Darwin, c'est à quel point il incarne les valeurs de l'élite sociale imprégnées des valeurs de l'aristocratie. Puisque Darwin, au départ, avant de commencer ses études à Cambridge, est un cancre. Il commence des études de médecine à Édimbourg et il s'intéresse beaucoup plus à la chasse, à la boisson, à faire la cour aux dames, selon un idéal aristocratique, que à ses études de médecine. Il appartient en effet à l'élite sociale. Son grand-père paternel, c'est un grand savant anglais, Erasmus Darwin, et son grand-père maternel, c'est Josiah Wedgwood, qui est un grand industriel de la céramique anglais. Et alors, ce mode de vie aristocratique, il l'adopte à Édimbourg, il l'adopte aussi à Cambridge, où là aussi il passe beaucoup de temps à chasser, beaucoup plus que dans les salles de cours. Et finalement, s'il est si heureux à bord du Beagle à faire le tour du monde, c'est que ça lui permet de continuer ce mode de vie aristocratique, de descendant du bateau, partir à la découverte d'espaces, collecter des espèces, assouvir son goût des grands espaces qui vient de cette éducation sur le modèle aristocratique. Mais la science britannique ne se limite pas à cet univers des gentlemen, des clubs londoniens et des explorateurs. Les acteurs de la mise en savoir du monde britannique se recrutent partout dans la société et partout dans le monde britannique. Un thème qui a été très central, là j'en viens à mon deuxième point, qui a été très central de l'historiographie des sciences et des savoirs au cours des dernières années, c'est celui de la vulgarisation. L'expansion géographique de la science britannique s'accompagne d'une volonté d'élargir socialement le public de la science. Alors, il y a plusieurs lieux de cette vulgarisation. L'un d'entre eux, c'est les musées, qui à l'époque sont à la fois des lieux de recherche scientifique, c'est un petit peu des laboratoires au XIXe siècle, les musées, mais sont aussi des lieux de vulgarisation ouverts à un public large, même s'il est surtout issu des classes moyennes. Alors, il y a un grand savant anglican de la première moitié du milieu du XIXe siècle, qui est Richard Owen, qui était conservateur du Hunterian Museum, le musée de Hunter, du Royal College of Surgeons, qui avait fait de son musée un lieu de propagande de sa conception de la science très, très marquée par la théologie naturelle. C'est lui qui a inventé le terme « dinosaure » en anglais. Et ça a été l'un des premiers à faire des reconstitutions de dinosaures à partir de fossiles squelettes trouvés partout dans l'Empire et d'en faire des lieux d'attraction qui attiraient massivement les visiteurs dans son musée. Et donc, il pouvait utiliser ces reconstitutions pour expliquer comment on pouvait y lire les lois de la création divine. Alors, mais ça, c'est les classes moyennes. Qu'en est-il de la vulgarisation vers les classes populaires ? Elle est, d'abord, la première chose qu'il faut en dire, c'est qu'elle est l'enjeu d'une lutte importante entre différents groupes. Déjà à la fin, en 1698, l'Église anglicane avait créé la Society for the Promotion of Christian Knowledge, qui avait ce but. Au XIXe siècle, on ne parle plus de promotion, on parle de diffusion. On veut diffuser les savoirs, et plus spécifiquement les savoirs utiles. Et plusieurs organisations rivales sont créées à cette fin. La plus importante est la Society for the Diffusion of Useful Knowledge, qui est fondée en 1823 et qui est d'influence utilitariste. Mais les anglicans et les différentes dénominations dissidentes ont leur propre société qui font la même chose. Et un autre point à souligner, c'est que ce mouvement en faveur de la diffusion des connaissances utiles ne couvre pas simplement les îles britanniques, mais se retrouve partout dans l'Empire. En Inde, une branche de la Society for the Diffusion of Useful Knowledge est fondée à Calcutta en 1839. Alors, cette notion de vulgarisation a fait l'objet d'importants débats méthodologiques au milieu des années 1990. Et les historiens ont souligné une idée qui est que la vulgarisation n'est pas une simplification des connaissances. La vulgarisation, ce n'est pas simplifier les connaissances pour mieux les diffuser, c'est plutôt les retraduire de manière sélective en fonction de valeurs et d'intentions de départ. Ça, c'est le premier point qui a été souligné. Le deuxième point important sur la question de la vulgarisation, c'est qu'elle devient, au XIXe siècle, une véritable industrie culturelle. Surtout à partir de l'introduction de la rotative à vapeur dans l'industrie, dans les années 1830, elle est une industrie culturelle. Tout le monde s'intéresse à la science en Grande-Bretagne au XIXe siècle, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Un historien, Bernard Lightman, a étudié les chiffres des ventes. Je vous donne quelques chiffres. Pour donner une idée de cette importance de la diffusion, les best-sellers de vulgarisation scientifique au XIXe siècle, c'est plus de 20 000 exemplaires, pas en une année, mais en cumulé. Ça fait partie des livres les plus vendus. Au XIXe siècle. À partir des années 1860, la vulgarisation devient même une activité journalistique extrêmement lucrative. On s'y spécialise. Alors, les vulgarisateurs sont un groupe très hétérogène, aussi bien socialement que idéologiquement, mais deux catégories sont particulièrement représentées. Les hommes d'église et les femmes. Et c'est très intéressant parce que c'est au moment même où la science savante se professionnalise, j'ai dit que l'idéal professionnel s'impose après 1870, se professionnalise mais aussi se masculinise, que la vulgarisation devient une industrie ouverte à ceux qui n'ont plus accès à la science professionnelle. Les hommes d'église qui la dominaient au début du XIXe siècle et puis qui sont exclus des universités à la fin, et puis les femmes. Ils n'ont pas un message unique, ces hommes d'église et ces femmes, mais en gros, ce n'est pas une généralisation abusive que de dire qu'ils tiennent un discours qui est plutôt conservateur, essayant de tirer des leçons morales du spectacle de la nature, même si c'est un peu paradoxal de voir que les femmes, par exemple, les vulgarisatrices, tiennent un discours plutôt conservateur, mais en réalité, en faisant ça, obtiennent une source de revenus qui leur offre une plus grande indépendance et les émancipe économiquement. Alors, une deuxième... moi je ne ferai pas la troisième partie. Précaution à prendre à l'égard de la notion de vulgarisation, c'est de ne pas reprendre à son compte cette vision de William Adams d'une diffusion des savoirs du haut vers le bas et du centre vers la périphérie. Alors déjà, en 1963, E.P. Thompson avait montré que dans la formation de la classe ouvrière anglaise, il n'y avait pas qu'un espace public bourgeois en Angleterre au XIXe siècle, mais il y avait aussi un espace public plébéien, ouvrier, qui se caractérisait par sa culture et ses savoirs, ses connaissances scientifiques et politiques. Et puis, dans l'Empire aussi, un historien de l'Inde qui est très très important pour l'historiographie du monde britannique, qui est Christopher Bailey, et son livre sur la formation du monde moderne a été traduit
est publié aux éditions de l'Atelier. Il est en poche pour 10 euros l'année dernière ou il y a 2 ans. C'est un livre qui est très très important. Donc, c'est un spécialiste de l'Inde, il a écrit beaucoup sur l'Inde du Nord et il montre qu'il existe dès le 18e siècle et tout au long du 19e siècle un espace public indien qui est indépendant de l'imprimerie britannique et de l'arrivée des Britanniques, qui préexiste à la colonisation et qui lui survit et qui a son propre fonctionnement et qui n'est pas manipulé par les Britanniques mais qui au contraire incorpore les innovations techniques comme l'imprimerie pour l'adapter à ses propres fonctionnements. Alors ici, Chris Bailey sur l'Inde s'insère dans un débat qui a été ouvert par Benedict Anderson. Benedict Anderson dans, comment c'est le titre du livre, les Imagined Communities, les communautés imaginées, disait que l'introduction de l'imprimerie dans les colonies, notamment britanniques, avait été un fait fondamental pour permettre l'essor du nationalisme. Et Chris Bailey, à propos de l'Inde, dit « bah non, pas vraiment. En fait, là je vous donne une citation, l'imprimé en lui-même n'a pas produit de révolution de l'information et de création d'un espace public national. Il a plutôt accéléré un système préexistant. Il a accéléré la diffusion de l'information et l'a diversifié au sein de communautés de savoir préexistantes. Alors, est-ce que j'ai encore 3 minutes pour dire quelque chose d'essentiel ? Parce que je voulais en venir au point qui est, il me semble, le plus important dans l'historiographie des sciences et des savoirs, c'est le fait d'avoir mis au centre de ce courant historiographique les ouvriers et ceux que l'historiographie appelle désormais les subalternes, selon le mot issu de Gramsci et employé par les historiens indiens, donc des subaltern studies. Plutôt que de voir l'histoire sociale des savoirs en termes de vulgarisation, de diffusion du centre vers la périphérie, du haut vers le bas, on a pris le point de vue des subalternes. Là, je vais prendre juste 2 exemples, un britannique et puis un dans l'Empire, pour illustrer ces travaux. Premier exemple dans le monde britannique, c'est Anne Secord, S-E-C-O-R-D, qui a décrit le monde des ouvriers qualifiés naturalistes dans le nord de l'Angleterre, à Manchester, au début du 19e siècle. Elle montre que les ouvriers qualifiés de cette région n'attendent pas que la classe moyenne simplifie les savoirs savants pour les apprendre, mais a déjà une culture botanique extrêmement précise. Ils connaissent parfaitement les classifications latines des espèces de Linné, et ils ont une excellente connaissance de la flore du nord-ouest de l'Angleterre, ce qui montre d'ailleurs qu'en cette période d'urbanisation, en fait, ils gardent un lien étroit avec la campagne. Et à une époque où la mécanisation tend à déqualifier ces ouvriers qualifiés, ils voient dans leur connaissance botanique un type de savoir-faire. Et ce savoir-faire, pour eux, ce n'est pas quelque chose qu'on peut simplement vendre sur un marché, c'est aussi la source d'un statut. Ils considèrent leur savoir scientifique sur le même modèle que leur savoir-faire artisanal. Et ça se voit très bien, Anne Secord le montre, dans les interactions entre ces ouvriers qualifiés très savants et puis les gentlemen naturalistes du 19e siècle. Parce que les gentlemen, pour construire des collections d'espèces naturelles, ont souvent besoin de ces ouvriers qualifiés. Ils viennent les voir, ils viennent leur acheter des espèces. Et là, les ouvriers sont intraitables, ils forcent les gentlemen à venir au pub, parce que c'est au pub que les ouvriers, le dimanche, se réunissent, comparent leurs collections, font des échanges, discutent de sciences. Donc ils les forcent à venir au pub. Les gentlemen ont énormément besoin de ces artisans, parce qu'on est à une époque où la révolution industrielle diminue la biodiversité dans le nord de l'Angleterre, donc la connaissance précise de la région est essentielle. Donc ils viennent au pub, et puis là s'instaure beaucoup plus, c'est pas du tout un marché des espèces naturelles, mais une économie morale dans laquelle les ouvriers forcent les gentlemen à la patience et à l'humilité dans ces transactions qui sont à la fois commerciales et scientifiques. En milieu colonial, deuxième exemple, de même, on voit que la question des savoirs n'est pas une simple question de diffusion, mais elle est au cœur de relations complexes entre britanniques et indigènes. Et là, je prendrai à nouveau un exemple tiré du travail de Christopher Bailey, Empire and Information, ça c'est son livre, je ne crois pas qu'il est dans la biblio d'historien et géographe, mais il est très 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 central. Dans son livre Empire and Information, il montre qu'il existe en Inde au 19e siècle des professionnels de la circulation des savoirs qui se recrutent dans toutes les castes de la société. Il y a des traducteurs, des coureurs qui courent d'un endroit à un autre pour diffuser l'information, des guides qui connaissent la topographie mieux que quiconque et dont les Britanniques ont besoin. Alors, un des élèves de Chris Bailey, s'appelle Matthew Edney, a écrit un livre très important d'histoire des sciences sur la carte de l'Inde telle qu'elle a été construite par les Britanniques au XIXe siècle. Et il montre que pour construire cette carte de l'Inde, les Britanniques, en fait, ont eu énormément besoin de ces professionnels de l'information, ces traducteurs, ces coureurs, ces gens qui connaissent bien la topographie, pour les emmener dans les endroits importants. Ils ont dû retraduire les savoirs indigènes beaucoup plus que simplement inventer de nouveaux savoirs de toutes pièces pour créer cette carte de l'Inde. Donc là, c'est un exemple qui résume un petit peu cette idée importante que les savoirs sont issus d'une collaboration au sein du monde britannique, sont issus d'une collaboration entre Européens et non-Européens. Et en fait, autour de la construction de ces savoirs, se construit la frontière du monde britannique. Alors, je n'ai pas le temps là de développer la question de l'orientalisme, mais ça aurait été simplement une illustration de toutes ces idées à partir d'un débat précis. Je voudrais simplement en conclure sur une idée, qui est que l'histoire des savoirs est un domaine important de l'historiographie qu'on ne peut pas rattacher ni à l'histoire sociale, ni à l'histoire économique, ni à l'histoire culturelle, mais qui est un petit peu tout ça à la fois.